France Inter.
On dit que les hommes ont peur. Et moi, je me demande quels hommes, je me demande aussi de quoi. Est-ce que les agresseurs ont peur? On sait bien que non, certainement pas. Les autres pourraient s'interroger, pourraient se désolidariser. La meute, ils pourraient la quitter. Ça, ils hésitent, ça fait flipper. On dit que tous les hommes ne violent pas, que tous les hommes ne frappent pas. Je dis bien sûr qu'il y en a. On doit leur dire bravo pour ça? On doit le perdre encore ce temps, dire les hommes sont pas tous violents? Ou est-ce qu'on peut passer la seconde et le changer enfin, ce monde? On dit que les hommes doivent s'engager, que si c'est pas une guerre des sexes, si on veut le faire, ce monde d'après, il faut qu'il marche à nos côtés. Je dis, c'est vrai, mais le côté, bah, c'est le côté. C'est pas devant, c'est pas le milieu, le centre. Il faudra le céder et qu'ils nous disent pas comment faire et qu'ils apprennent aussi à se taire. Là, oui, on pourra avancer. On dit que les hommes justes, ça existe, dès qu'ils écoutent, dès qu'ils entendent, dès qu'ils partagent le combat, qu'ils n'ont pas peur de la douleur et ils l'apprennent un peu, parfois.
En marge. Julia Foyce sur France Inter.
Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Elle lutte, elle se débat, mais ne résistera pas, je vais bloquer l'ascenseur. Je vais prendre ta douleur, saboter l'interrupteur. Je vais prendre ta douleur.
Bonsoir, bienvenue Gilles Lazimi.
Bonsoir.
Vous avez longtemps exercé comme médecin généraliste. C'est ça le rôle d'un généraliste, c'est prendre la douleur des autres, ou une part du moins.
Prendre une part, accompagner, partager, être avec, ne pas laisser seul et tenter de, effectivement, de soulager cette douleur.
Directeur d'un centre de santé en Seine-Saint-Denis, vous êtes aussi un militant chevronné de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, membre du Haut Conseil à l'égalité. Vous êtes également membre du collectif féministe contre le viol de SOS Femmes 93, président de Stop aux violences éducatives ordinaires. Ça fait beaucoup, c'est jamais assez.
Oui, malheureusement, c'est jamais assez. On me dit qu'il faudrait que j'arrête, mais non, c'est jamais assez.
Pourquoi ? Il fallait sortir de votre cabinet, il fallait...
Ah oui.
Le travail que vous faisiez avec vos patientes, il fallait le prolonger à l'extérieur ?
Dès que j'ai commencé au centre de santé de Romainville, je faisais des consultations, et c'était très important d'aller en ville, d'aller dans les écoles, d'aller dans les classes, et d'être médecin dans la ville, près des gens, et dans mon cabinet de consultation. C'était faire de la prévention et du soin, et il ne se passe pas la même chose, et la vie... Elle interagit sur les patients, elle interagit sur leur santé. Et nous, on interagit aussi, pas simplement en blouse blanche, on interagit dans la ville, en tant que citoyen. Et c'était très important pour moi et ça a été très enrichissant.
Et ça, face à des violences aussi massives que celles faites aux femmes et aux enfants, aussi millénaires, la prévention, ça fonctionne. On se sent souvent écrasé, démuni, impuissant. Vous vous dites non, on peut faire quelque chose.
On peut faire quelque chose.
En amont, je veux
voilà,
dire, avant
en amont,
que ça arrive.
On peut faire quelque chose, mais c'est sûr que tous les mouvements féministes depuis 30, 40 ans ont fait avancer la société, un petit peu diminuer la tolérance, je dis bien un petit peu. Ouais. Et on attend des actions encore. Hein. Je veux dire que 20 ans après cette loi qui permettrait de faire 3 séances dans les écoles...
D'éducation à la vie affective et sexuelle, ouais.
N'a toujours pas lieu.
Toujours pas.
En tous les cas, c'est un tiers ou un quart des établissements, donc ça, c'est pas normal. Deux, des campagnes de sensibilisation. Il y en a de plus en plus, mais c'est encore insuffisant. Trois, la parité. On voit bien que la France, on est le 27e pays en matière de parité au niveau député. C'est pas encore le cas, mais on approche. Sur les postes de ministères, on voit bien que les ministères les plus importants sont encore dévolus aux hommes. Donc, il y a des choses sur l'égalité salariale aussi. C'est important. Sur le plafond de verre.
Vous dites que la société civile fait, mais tant qu'on n'est pas accompagné ou relayé par le politique...
Il faut absolument relayer, soutenu. Ouais. Et puis, il faut que les financements aillent aux entreprises, par exemple, qui font le travail, qui font le job et qui font que la parité, l'égalité salariale soit réelle. Et sur les familles, il faut qu'on accompagne les familles pour changer l'éducation. Donc voilà, c'est un long chemin. Je pense qu'on va mettre encore 30 à 40 ans.
Ah
mais
non.
On y arrive.
Je voulais absolument que les auditrices et les auditeurs d'En Marge vous rencontrent pour tout un tas de raisons qu'ils et elles vont découvrir. La première fois que je vous avais interviewé, moi c'était il y a plus de 15 ans, Gilles. À l'époque, vous disiez qu'il fallait absolument que la détection et la prévention des violences faites aux femmes et aux enfants intègrent le cursus des étudiants en médecine. C'est le cas maintenant ?
C'est de plus en plus le cas. Très clairement, il y a de nombreuses facultés où cet enseignement a été mis en place. Il n'y a pas depuis 5-6 ans un congrès de médecine générale où il n'y a pas des séances sur les violences, où on ne suscite pas l'intérêt des professionnels à poser la question et à poser la question de façon systématique.
C'est ça la clé ? C'est ça qu'on peut apprendre principalement ? C'est aller interroger les patientes ?
Déjà, parler des violences. Déjà reconnaître les femmes victimes de violences comme étant des patientes qui souffrent et qui souffrent d'abord de ne pas pouvoir être entendues, écoutées, accompagnées par un professionnel de santé qui les respecte et qui les accompagne.
Il y a eu pour vous ces deux patientes, zéro et zéro prime, qui les premières vous ont raconté ce qu'elles avaient subi. Vous nous direz, il y a eu pour vous un avant et un après, elle, dans votre pratique, dans votre chemin d'homme aussi. Vous voici donc près de 40 ans plus tard avec nous, ici dans ce studio. Gilles Lazimi, avant de regarder dans le rétro, on va regarder dans le miroir. Vous allez vous regarder, Gilles. Dites-nous, qu'est-ce que vous voyez ?
Alors, qu'est-ce que je vois ? Je vois quelqu'un de brun, avec des yeux noirs ou marrons, avec des cheveux très très grisonnants. Et voilà ce que je vois.
Des lunettes de médecin.
Noires, tout à fait. Des lunettes de médecin rectangulaires. Oui.
Est-ce que vous vous regardez ?
Quand je passe devant une glace, mais sinon, non, je me regarde pas. Non,
Ça ne vous a pas intéressé ?
Non,
jamais.
Non.
Est-ce que ça fait partie de la construction du masculin aussi ? C'est-à-dire qu'on apprend aux petites filles à passer beaucoup de temps devant le miroir et aux garçons attention.
Alors d'abord, on a appris aux petites filles qu'il fallait absolument, effectivement, qu'elles fassent très attention, qu'elles soient toujours apprêtées, qu'elles soient toujours, alors que le garçon peut ne pas l'être. Mais bon, ça ne veut pas dire que parce que je ne me regarde pas, je ne fais pas attention. Bien sûr, je fais aussi attention quand même.
Vous ressemblez à votre père ou à votre mère ?
Eh bien, un peu des deux.
C'est vrai ?
Un peu des deux, et quand je me regarde, c'est ce qui me fait le plus plaisir.
Que vous voyez ?
C'est-à-dire que je vois le regard de mes parents.
Et il est bon et il est doux, ce regard. Vous nous en parlerez de vos parents. Ça fait quoi d'être un homme plongé au cœur de la lutte féministe ? Vous nous direz. Vous nous dites déjà que c'est possible et ça, en soi, c'est décisif. Pomme sur France Inter.
Pendant l'été où je t'ai rencontré par magie, les nuits sacrées où je t'ai raconté toute ma vie.
les perséides comme une pluie de météores, comme un bouquet de lumière sur la planète Terre qui aurait sacrément besoin d'être mieux éclairée par endroits, à la marge par exemple. On s'y balade avec vous ce soir, Gilles Lazimi, de votre tout premier cabinet de généraliste dans le nord-est parisien, aux luttes féministes. Vous êtes notre invité.
France Inter, En Marge.
بلاني بالمحال عين عين لك حلا سويدة
انحبك انحبك. Vous êtes où, Gilles Lazimi, quand vous entendez cette voix de Renette Loranaise ?
Eh bien, je suis à la maison, je suis enfant, et ma mère met des cassettes de cette musique. Et voilà, c'est une musique qui a accompagné, qui était très présente dans la maison. C'était le souvenir douloureux pour ma mère d'avoir quitté le Maroc et d'être en France.
Vous êtes né un 15 mai 1957 à la maternité de Meknès au Maroc. La ville abrite un ghetto juif. Votre famille, comme des milliers d'autres, y a trouvé refuge 5 siècles plus tôt, quittant l'Espagne en pleine Inquisition. De nouveau, en 59, il faut partir, faire la route en sens inverse, traverser à nouveau la Méditerranée, gagner Paris. Pourquoi ?
Parce que mes parents ne voyaient plus d'avenir possible pour eux au Maroc, malheureusement. Et ils prirent la décision de quitter le Maroc. Mais bon, les Juifs au Maghreb, il y en avait 500 000. Il n'y en a plus que quelques milliers aujourd'hui. Ils sont pas partis pour rien. Ils ont été poussés à la mer.
Qu'est-ce qui reste de cette histoire-là dans la tête, dans le cœur de vos parents quand vous êtes enfant ? Qu'est-ce qu'ils vous en racontent ?
Ah, ils sont très nostalgiques et ils se souviennent de ces périodes enchantées. La vie a été très difficile quand ils arrivent en France. Ils se retrouvent dans un petit commerce alors qu'ils avaient une vie beaucoup plus aisée au Maroc. Et ils vont élever leurs 4 enfants en travaillant pratiquement tous les jours, en mettant tout pour que leurs enfants s'en sortent.
Ils tiennent une petite épicerie, vous dormez tous dans l'arrière-boutique au départ, on n'écoute pas de musique, ici juste le bruit des enfants, des 4 enfants, 3 fils, 1 fille, vous êtes le petit dernier, c'est quoi l'ambiance à la maison ?
Ah, c'est assez bruyant avec parfois le père très autoritaire qui demande de nous taire parce que effectivement ça gêne le commerce, mais c'était très, très, très gai, très vif et j'ai des bons souvenirs.
Marguerite, votre mère est généreuse, drôle, hospitalière un peu trop, dites-vous.
Pourquoi ? Oui, trop hospitalière parce qu'elle recevait tout le monde et tous les gens qui passaient par Paris venaient à la maison, parfois dormaient à la maison. Ce qui fait que bah, il fallait céder la place, le lit, dormir par terre et c'était tout pour les invités. Quoi. Bon voilà, elle sait tout pour nous, mais quand les invités étaient là, il fallait absolument...
Alors ça, quand on est enfant, on imagine qu'on n'en soit pas forcément très heureux, mais comme adulte aujourd'hui, quand vous regardez ça, quand vous vous souvenez de ça, vous dites que ça vous a construit aussi,
oui,
dans l'accueil, dans le...
Tout à fait, ça m'a construit dans l'accueil, dans l'hospitalité, dans l'amour des autres, hein, bien évidemment, parce que toutes ces personnes ont été pour la plupart reconnaissantes et sont toujours en lien. Donc ça m'a vraiment aidé, ça m'a donné l'amour des autres, effectivement.
Votre père, Robert, belle carrure, petit sourire en coin, discret, il en impose, un peu trop lui aussi ?
Alors, il en impose, oui, il est autoritaire, mais il est discret. Il est discret, très classe.
C'est une figure patriarcale au sens classique du terme, vous diriez ?
Oui, c'est
le chef de famille.
C'est le chef de famille, oui, tout à fait. Un regard et on ne bronche pas.
Vous, le petit dernier, vous êtes ce qu'on appelle un enfant facile, un mignon, discret, gentil, de ceux qu'on aime bien élever. Le chouchou, même, diraient vos frères. Très bon élève en classe. Le mercredi, vous allumez la télé et la piste aux étoiles. Vous en rêvez.
Gilles Margaritis présente La Piste aux Étoiles, transmis en direct du Moulin de la Galette. Orchestre Bernard Hilda, avec Bill Boquet à la barrière, les Astara, Cassagi et les Palmas du Cirque Medrano, le Trio Martini, les Phoques de Decay, Achille Zavatta.
Cette émission qui plantait ses caméras sous le chapiteau d'un cirque. Elle vous faisait quoi, petit ?
C'était d'abord formidable, ce spectacle de cirque pour un enfant. C'est les premières années de télé à la maison, donc c'était un événement. Et puis quand on avait le droit de la regarder, c'était formidable. Mais c'était Gilles Margaritis, il avait le même prénom que moi. Et l'identification, c'était l'espoir d'avoir un avenir.
Vous rêviez de quoi pour plus tard ? Vous feriez quoi quand vous seriez grand ?
Alors, enfant, j'ai pas le souvenir, vétérinaire ou artiste de cirque éventuellement. Mais voilà, mais c'est sans plus, j'avais pas vraiment de plan.
Vous étiez un enfant heureux ?
Je crois avoir été un enfant heureux, très heureux, ouais. Oui, tout à fait.
Et vos parents, vous voyiez sous vos yeux un homme et une femme heureux malgré tout, où il y avait où l'accès au bonheur était compliqué ?
Non, ils étaient heureux d'avoir leur famille, ils étaient heureux pour leurs enfants, ils se sont sacrifiés pour nous, ils ont travaillé mais comme des forcenés, avec des périodes de désenchantement à plusieurs reprises, des périodes difficiles, mais ils ont toujours fait face, et je crois qu'ils étaient heureux, et ils étaient heureux d'avoir construit cette belle famille.
Quelle place prenait le monde extérieur, la religion, la politique, dans l'éducation que vous receviez ?
Alors, la religion, mes parents étaient traditionnalistes, ça veut dire que on se voyait, on recevait tous les vendredis soirs, toute la famille, il y avait toujours une place pour quelqu'un, toutes les fêtes, il y avait du monde tout le temps. Donc ça, c'était quelque chose qui était comment dire, chaleureux, intéressant, et c'était vraiment aussi le geste apporté. Il y avait toujours une place de libre et toujours suffisamment à manger pour quelqu'un qui arriverait. Donc ça, c'était quelque chose de très important.
Donc dans les valeurs, en tout cas, plus que dans la spiritualité, vous diriez ?
Alors, plus dans les valeurs. La spiritualité, moi j'avais un petit peu de mal, donc mes parents l'avaient, mais pas moi, mais ça posait pas de problème.
Et la politique ?
Politique, alors, mon père était discret, et il nous a toujours appris à être discret, ne pas en faire trop, ne pas trop montrer.
Ouais, alors là-dessus...
Voilà, on va s'intégrer, tout en gardant notre culture, mais on va pas faire trop de bruit.
Là-dessus, vous l'avez pas forcément écouté, c'est peut-être ça aussi, être le petit dernier. La graine de la révolte, quelque part, elle poussait. En vous, adolescent, vous militez, vous entendez et vous vendez des journaux d'information ouvrière, vous vous rapprochez des mouvements de jeunesse sionistes, pacifistes et socialistes, et puis en classe de seconde, vous êtes dans la rue contre les lois Debré.
Ici le boulevard Voltaire, un boulevard Voltaire où il y a beaucoup de monde. La manifestation a commencé depuis environ une heure et demie, et on peut dire qu'elle se déroule sans le moindre incident. Je ne vous donnerai pas de chiffres, car vous le savez, ils seront contestés demain matin. Disons qu'il y a entre 5 000, 10 000 et peut-être 15 000 personnes.
C'était il y a presque 50 ans. Le sursis militaire accordé aux étudiants devait être supprimé. Ça jetait les lycéens dans la rue. Et vous, vous en êtes.
Oui.
Pourquoi ? Au fond, est-ce qu'avec le recul, vous dites, qu'est-ce qui fait que là, vous y allez ?
C'est une période... Bon, on sort de la guerre du Vietnam. Je ne pouvais pas m'imaginer... Faire l'armée, c'est pas possible, avoir une arme combattre pour combattre d'autres personnes, c'était pas possible. Donc voilà, c'était quelque chose. Je n'ai pas d'autre explication. C'était
quitte à être le seul de votre classe à faire grève.
Oui, il se trouve que ça c'était
la classe entière y va et vous
voilà,
non.
Ça c'était l'erreur. C'était l'erreur. Je me suis aperçu qu'effectivement j'étais le seul dans la classe à faire grève et je l'ai payé puisque j'ai donc redoublé après.
Vous êtes du genre assez singulier, hein, comme adolescent, Gilles Lazimi. Vous faites l'essentiel de votre scolarité en école de garçons, sauf que vous ne supportez plus la non-mixité. Vous partez au lycée Paul Valéry, seul établissement mixte de votre secteur, le 11e arrondissement. Au fond, qu'est-ce que vous ne supportez pas dans le fait de n'être qu'avec des garçons ?
Eh bien, être qu'avec des garçons, l'ambiance de garçons, c'était quelque chose qui me pesait.
Qu'est-ce que vous n'aimez pas ?
Non... J'aime les garçons aussi, j'ai beaucoup d'amis garçons, mais en quatrième, troisième, je ne supportais pas d'être qu'avec des garçons. C'était quelque chose qui était... Je pense que peut-être, je sais pas, je vais peut-être dire une bêtise, mais je pense qu'il y avait peut-être un petit côté féminin que j'avais et que je ne retrouvais pas dans cet établissement. Il fallait absolument que je sois dans un établissement où il y avait des filles. Alors c'était peut-être aussi l'éveil, c'était peut-être aussi le désir d'être aussi avec des filles. Mais le lycée Voltaire, ça m'était insupportable.
Qu'est-ce que votre mère ou votre sœur vous ont dit, vous ont raconté du féminin ? Qu'est-ce que vous aviez sous les yeux ?
Alors j'avais ma sœur, que j'aime beaucoup et que j'aime encore, qui était un exemple pour moi, ma mère, mais c'était pas le même type de féminin, parce que ma mère a été, comment dire, une femme au foyer, au travail, totalement soumise, hein, très clairement, à son mari et à sa famille. Ma sœur, pas du tout, puisqu'elle est partie, très tôt, ma sœur est partie quand elle avait 17-18 ans, vivre à Montréal, et elle vit toujours à Montréal, et moi j'avais 11 ans, donc quand elle me quitte, c'est aussi une perte. Peut-être que ça a compensé cette perte, le désir d'aller dans un autre lieu et de voir d'autres personnes et des filles notamment.
Et qu'est-ce qu'elle vous apportait, vos amitiés avec des filles, que vous ne trouviez peut-être pas auprès des garçons ?
La douceur, la féminité, un autre regard sur le monde, une autre appréciation de la vie.
Peut-être un peu moins va-t-en-guerre, c'est ça,
fait,
peut-être que le lien il est là aussi.
Oui, oui, moins agressif, plus tolérante. C'était essentiel pour moi, mais ça n'a pas empêché, par ailleurs, que je garde depuis l'âge de 14 ans les mêmes amis que je vois quasiment toutes les semaines. Donc c'est pour dire.
Au mur de votre chambre, des affiches de mai 68 et des photos d'usine. Sur votre table de chevet, des polars, des polars, des polars. Et dans le magnétocassette, c'est signé. Hein, c'est du Ferré, Sacco et Vanzetti, du Ferra. Ils sont tous là. Et puis évidemment, Serge Reggiani, Ma Liberté.
Ma liberté, longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. On allait n'importe où, on allait jusqu'au bout des chemins de fortune. On cueillait en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune.
Pour aimer autant la liberté, est-ce qu'il faut en avoir été privé ? Est-ce qu'il faut la sentir menacée à un endroit ou à un autre ?
Les deux. Les deux. Mais la sentir menacée, oui, effectivement, je crois que...
En quoi ?
Menacée par la vie, menacée par les discours politiques, menacée par son histoire, menacée par son hérédité. C'est quelque chose qui est ancré et qui est présent. Je ne peux pas imaginer que, par exemple, mon passeport ne soit pas prêt. Mon visa est toujours prêt. Oui, et pourtant, mon pays, c'est la France, et je serais terriblement malheureux de le quitter, mais il est prêt.
Et comme jeune homme des années 70, en quoi est-ce que vous vous sentiez coincé, ou étriqué, ou piégé ?
Alors peut-être que l'éducation aussi, peut-être l'éducation un peu trop traditionnaliste aussi, un peu trop religieuse, avec des parents qui n'avaient pas fait beaucoup d'études, donc qui avaient des a priori, et ça peut être aussi ce désir de liberté.
Et vos frères étaient comme vous ?
Pas tout à fait, non, on est tous différents.
Ça c'est le privilège des petits derniers aussi, de mettre le bon coup de pied dans la fourmilière quand il faut. Et comme on est parfois plus libre à deux, il y a cette jeune fille du lycée Hélène Boucher, vous l'avez rencontrée, elle avait 14 ans, elle aussi évoluait dans le milieu du Dror, les bâtisseurs de liberté. Elle aussi a regardé un par un ses membres partir, s'établir en Israël, bâtir des kibbutz. Elle aussi, comme vous, est restée en France. C'était pas votre truc, vous vouliez vivre à Paris, faire des études, avoir un diplôme, travailler. Le 11 novembre 1975, vous la retrouvez dans un café, place de la Nation. Vous ne vous êtes plus jamais quitté. Faites l'amour, pas la guerre, et pour l'éternité. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end. Stranger.
face of pain. And all the children are insane. Older children are insane. Wait for the sun.
This is The End sur France Inter, les Doors, qui vous raconte quoi de vous ou d'une époque, Gilles Lazimi?
Ça raconte une époque, oui, ça raconte la fin de la guerre du Vietnam, ça raconte la guerre, ça raconte les colonisations, ça raconte l'ancien monde, entre guillemets, puisqu'on voit qu'aujourd'hui c'est peut-être pas tout à fait encore la même chose, mais presque. Mais en tous les cas, c'est une période très très mouvementée, et c'est une période qui annonce des choses. Donc,
à l'époque, vous y croyez? Vous croyez que vous pouvez changer le monde déjà?
Oui, j'y croyais de façon un peu trop radicale, tout en restant absolument pas encarté. Je n'ai pris de carte nulle part, et je ne suis jamais resté dans un endroit où il y avait une ligne directive où on pouvait pas sortir. Si on pouvait pas sortir, je partais, et donc je n'ai jamais pris de carte, mais... Oui...
C'est viscéral, en tout cas.
Voilà, on peut changer les choses. Alors aujourd'hui, je sais qu'on peut les changer, mais à petits pas. Et on peut les changer dans la négociation. Et je crois qu'on peut avancer. Et donc, j'ai réussi. Je me suis rendu compte qu'on pouvait travailler avec des gens qui n'avaient pas forcément les mêmes opinions, et qu'on pouvait petit à petit cheminer ensemble. Et on a vu sur les violences faites aux femmes, on a vu sur les violences faites aux enfants.
Et on l'a vu là sur l'IVG tout récemment.
Tout à fait, sur l'IVG, tout à fait. Voilà, et ça c'est possible. Et c'est le sens de l'histoire. Et on peut convaincre. Et on peut amener des gens à nous, c'est le cas. Sauf les extrêmes, qui resteront les extrêmes.
Il y a quelques minutes, vous tombiez amoureux dans un café Place de la Nation. Celle qui vous tient la main ce jour-là ne vous la lâchera pas. Et c'est donc à deux que vous traversez vos études de médecine. Rêvez d'un monde différent, sans souffrance, sans violence. Faites 3 enfants, accessoirement. Et dansez aussi sur les Blues Brothers.
France Inter, En Marge, Julia Foyce.
Alors ça pourrait être la bande-son de vos études de médecine, Gilles Lazimi. Oui. Études qui se passent comment pour vous ?
Elle se passe bien, c'est un bon moment. Les premières années sont difficiles, parce que je vais redoubler, c'est difficile, parce que c'est un concours et que c'est aberrant de casser les mômes comme on l'a fait pendant des décennies. Mais je vais avoir des amis qui vont nous aider, on va travailler. Et c'est une découverte, vraiment, ça se passe très très bien. Il y a beaucoup de soirées, il y a beaucoup d'alcool à l'époque aussi. Et il y a de l'amitié qui se crée. Des études difficiles parce que on passe beaucoup de temps à l'hôpital, on a beaucoup de cours. Et puis il y a beaucoup de gardes, mais on apprend à aider les autres, à être proche des gens. On découvre, on découvre le lien, la relation, pas dans tous les services. On découvre aussi la maltraitance qu'on subit de la part de professeurs. Hein. J'ai quand même le souvenir d'avoir été assez maltraité par certains professeurs de médecine, et je leur en veux encore. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui, quand je suis enseignant, de faire, j'espère, tout le contraire. Donc ce sont des bonnes années, mais c'est des années que je vais découvrir petit à petit. J'ai pas de plan de carrière, je sais pas ce que je vais faire, et puis petit à petit, je vais papillonner un petit peu, et je vais être médecin généraliste.
Alors, vous y êtes entré parce que c'était les seules études qui classique permettait un sursis étudiant encore, c'est ça. Oui. Donc il n'y a pas véritablement de, a priori, de vocation, encore qu'avec le recul, on se dit que c'était quand même fait pour vous.
Oui, tout à fait.
Le soin à l'autre.
Tout à fait. J'aurais voulu être peintre, mais bon, je peignais très mal, et puis il n'y avait pas de sursis. Donc voilà, j'ai fait médecine.
Vous étiez meilleur en humain.
Voilà, j'ai fait médecine avec ma femme, avec qui j'ai bossé pendant... on bossait ensemble.
Et pourquoi généraliste, alors?
Parce que c'est la profession... les spécialistes sont des spécialistes d'organes. On s'occupe d'un organe et que de l'organe, vraiment. Généraliste s'occupe de la personne dans son entier. C'est la globalité et on coordonne, on est avec les personnes, on est dans la proximité, on est dans la continuité, vraiment on est proche des gens. J'aime ce que je fais et j'aime les gens. Et cette relation, je n'aurais pas pu l'avoir. J'ai fait un peu de cardio, lire des électros, faire des examens, c'était pas très intéressant. J'ai fait de l'écho-cardio, c'était pas très intéressant. C'était majeur pour moi d'être en lien avec les gens et puis de les voir cheminer avec eux. Et là, quand on chemine en voyant les grands-parents, les parents, les enfants et les petits-enfants, il se passe quelque chose et c'est essentiel.
En 77, vous êtes diplômé, vous effectuez vos premiers remplacements.
Quel souvenir vous en... C'est
parce que...
Terrible. Première journée de remplacement en ville. Je crois que j'ai changé de chemise 3 fois tellement j'étais en sueur, anxieux. Ah oui, j'ai été acheter des chemises neuves. C'était terrifiant parce que on ne nous avait pas appris la médecine de ville. À l'époque, il n'y avait pas de spécialité en médecine générale. Il y avait les spécialités d'organes. La médecine générale, on ne s'en occupait pas. Aujourd'hui, il y a une spécialité, il y a un cursus universitaire, il y a une équipe universitaire, et c'est une véritable spécialité. Et aujourd'hui, ils font 9 ans, nous on en faisait 6, et puis on débarquait 7, on débarquait en ville. Donc c'était des patients debout, qui décidaient, qui parlaient, qui négociaient, qui ne faisaient pas ce qu'on disait, ce qu'on leur proposait de faire. C'était très très difficile. Donc ça j'ai appris, j'ai appris brutalement avec... le sida.
Oui, alors, on va y revenir à l'époque à laquelle vous commencez à exercer, mais il y a aussi dans votre parcours, quand même, c'est pas rien, l'arrivée de 3 enfants, 2 jumelles, un garçon. Est-ce que, d'une manière ou d'une autre, ils ont pu changer votre approche de votre métier, parce que, changeant votre approche de l'humain, parce que, changeant l'humain que vous êtes?
Ils m'ont changé, c'est très clair. Je veux dire que les états d'âme, ces lucubrations psychiques inutiles, là, ont disparu. Il y avait des enfants, il fallait s'en occuper, et c'était évident.
Vous avez aimé être père ?
J'ai aimé être père. Alors, les premières années pour mes filles, pour mes 2 jumelles, ont été un petit peu difficiles, parce qu'elles sont nées très prématurées, mais je faisais quelques remplacements, donc jusqu'en 89, j'ai travaillé peu, on va dire. Donc j'étais un peu plus présent. J'ai adoré leur raconter des histoires. Et je suis très content quand elles se souviennent des histoires que je leur racontais et que j'imaginais. Pour Sacha, j'étais peut-être un petit peu moins présent et je le regrette. Mais oui, ça a été merveilleux. Mes enfants sont merveilleux.
Ils sont nés tous les 3 quand vous devenez le directeur du centre de santé de Romainville, une banlieue rouge, autant dire que vous êtes dans votre élément. Ce qui est plus compliqué, c'est qu'on est au tout début, oui, de l'épidémie de sida, à la télé, au journal télévisé, pour la première fois, on entend ça.
Il court, le sida.
Le sida, c'est pas une épidémie, c'est une maladie qu'on peut éviter. Il se transmet seulement par les relations sexuelles et par le sang. Alors c'est facile de se protéger, de protéger ceux qu'on aime. Il suffit de s'informer. Il passera pas par moi.
C'est un point de bascule, le sida, pour vous, dans votre chemin professionnel et dans votre chemin personnel.
Dès 85, je remplace en ville, puis après en centre de santé de Romainville, et je vais rencontrer énormément de patients atteints du sida. Et de patients séropositifs, de patients qui ne veulent pas faire de tests, qui ne veulent pas prendre de traitement, il y en avait très peu à l'époque. De patients, je ne connais rien de leur vie. Et ça a été un moment très, très fort où, avec les patients, on était dans l'incapacité de comprendre ce qui se passait, dans la discrimination des patients, et ça c'était intolérable pour moi de savoir qu'un patient ne pouvait peut-être être mal reçu par un de mes confrères. Et je me souviens d'une réunion à la Direction Générale de la Santé avec l'Agence Française de Lutte contre le Sida et la SFTG, une société de formation thérapeutique généraliste, je la cite parce qu'ils sont géniaux. On se réunit pendant 2 jours, et pendant 2 jours, on va être enfermés dans des pièces avec des médecins, des patients, des militants, d'ACT UP, d'AIDE, et on va en prendre plein la tête. À juste titre. Ils vont nous expliquer ce qu'est la vie.
Ils vous disent quoi ?
Ils vont nous expliquer qu'on ne sait rien de la vie, qu'on ne sait rien de la sexualité, qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est difficile de mettre un préservatif quand on n'a pas appris à le mettre, quand on n'est pas éduqué de cette façon, que la relation, c'est pas quelque chose de mécanique avec une procédure, première A, vous enlevez le col et ensuite... c'est pas une procédure, c'est la vie. Ils nous apprennent la vie réelle et ils nous apprennent aussi à respecter les patients et à faire avec. On n'est plus dans une médecine descendante, paternaliste, où je dis ce qui est bon et vous faites. Non, on fait avec eux et on fait en négociant et en tenant compte de leurs difficultés, de leur histoire, de leur passé. C'est un premier choc pour moi et ça va être salutaire. Alors, j'ai accompagné beaucoup de patients en situation, bon, évidemment, de soins palliatifs et d'ailleurs, ça a été très fort. Et ça m'a beaucoup aidé. Et ça m'a aussi permis de comprendre aussi ensuite les patients toxicomanes.
Oui, alors justement, à ce sujet, on le rappelle à l'époque, le sida touche en premier lieu, au début, des publics homosexuels et toxicomanes. C'est un monde que vous ne connaissiez pas, Gilles. Et tout à coup, résonne en vous cette petite musique-là.
Ça fait des heures que tu l'attends. T'as mal aux os, t'as mal au dos. Tu transpires, c'est pas parce qu'il fait chaud. Et tu trembles, c'est pas parce que t'as froid. Et tu l'attends, le salaud. Il prend son temps, il sait qu'il aura ton argent. Tu ferais n'importe quoi pour avoir ton petit kepa. Oh, oh, tu voudrais la sentir déjà au creux de...
Manon Solo, au creux de ton bras, en quoi est-ce que votre travail auprès des toxicomanes vous a construit, Gilles Lazier ?
Alors, il y a mon travail, mais il y a aussi une histoire d'amis. Donc, je ne peux pas ne pas le citer. C'est Fabien, c'est un ami d'enfance qui va mourir du sida. Donc, c'est quelque chose qui était important. Et les patients toxicomanes, après les patients séropositifs, c'était de tenir compte de leur souffrance, de leur histoire, et de comprendre que ce sont vraiment des patients. On nous a fait croire longtemps que les patients toxicomanes venaient pour nous escorquer des ordonnances, des médicaments, alors que pas du tout. Ils ont une blessure, ils ont une histoire, ils ont le besoin de pallier avec le mauvais traitement. Et si enfin on tient compte de leur histoire, de leur passé, de leurs troubles affectifs, surtout de ce qui naît dans la famille le plus souvent, c'est vraiment le premier lieu, le premier creuset des difficultés, des douleurs, et bien d'un seul coup, ce sont des patients comme les autres, et on va pouvoir les aider, on va pouvoir commencer à donner des traitements de substitution. C'est pas légal au début, on va y arriver petit à petit.
Vous faites taper sur les doigts par leur des médecins, ouais.
Pas par leur des médecins, parce que j'ai réussi à passer dans les gouttes, mais avec des groupes, on a réussi à mettre en place ces traitements, et aujourd'hui, la majorité des patients toxicomanes sont sous substitution, la majorité des patients toxicomanes n'échangent pas leur seringue, et je veux quand même remercier la ville de Romainville, qui m'a permis, un, sur le sida, de faire des affiches en 4 mètres sur 3 avec des habitants de la ville, et puis, en 4 mètres sur 3, en 94, des affiches où on disait acheter une seringue neuve, ne pas partager une seringue. Ouais. Donc c'était important d'avoir ce message de prévention et aussi les accueillir dans nos centres de santé pour les aider à réduire les risques.
Et dans leur globalité, sans
tout
les juger, toujours sortir de cette posture verticale en
fait.
Vous exercez donc dans le 93, donc très vite vous allez rencontrer Emmanuelle Piette, présidente du planning familial du département, qu'on a reçue ici aussi. En 97, tous les deux, vous menez votre première action commune, une campagne pour le préservatif féminin. Pourquoi ?
Alors, on travaillait déjà dans le cadre du planning familial, donc c'était important. On voyait plein de femmes, santé des femmes, c'était important. Et en 97, on décide de faire une campagne de promotion de préservatif féminin. Pourquoi ? Parce que on est au cours de l'épidémie SIDA. Toutes les campagnes sont dirigées envers les hommes, envers les homos, mais pas envers les femmes. Et pourtant, les femmes sont les premières contaminées. Donc là, il y a problème. Même les traitements ne sont pas encore bien distribués aux femmes. Donc il y a une mesure de prévention, c'est le préservatif féminin. Ça n'existe pas en France, on va faire en sorte qu'il soit commercialisé. Et on fait une campagne où on va distribuer des préservatifs féminins à, je crois, 3000 médecins en Seine-Saint-Denis, des généralistes et des gynécologues. On va leur dire, essayez le préservatif féminin pour savoir de quoi vous parlez. Et comme ça, vous pourrez en parler. Parce que si vous ne savez pas ce que c'est, vous ne pourrez pas convaincre. Et deuxième chose, proposez-le à des patientes pour voir si ça peut fonctionner. Mmh. Effectivement, ce n'était pas un outil magique. C'était un outil de plus qui pouvait permettre à certaines femmes de prévenir une contamination par le HIV. Et donc, on a attendu 25 ans pour qu'il soit remboursé pour les moins de 26 ans. Donc, mais c'est bien, il l'est aujourd'hui. Et donc ça, ça va nous permettre de voir que c'est utile. Et quand je le propose à certaines patientes dans l'étude de faisabilité, hein, qui était très efficace, qui a montré que c'était utile, ben je découvre que des patientes que je connaissais avaient pris des risques sciemment et avaient été contaminées par le VIH parce qu'elles n'arrivaient pas à imposer le préservatif. Donc découverte, moi garçon, je ne sais pas que ben, c'est difficile. Là aujourd'hui, quand je dis ça, je rigole parce que j'aurais dû le savoir quand même, hein, franchement, vu l'éducation. Et que une autre patiente que je trouve très attachante, avec qui je travaille dans la ville, elle aussi prend un risque et a un rapport sciemment avec une personne séropositive et va devenir séropositive. Et je comprends pas. Je comprends pas. Et donc là, j'interroge leur passé et je vois qu'elles ont été ou victimes d'inceste ou de violences conjugales et qu'elles sont pas en capacité de prendre soin d'elles. Et là aussi, il faut les accompagner, comprendre. Voilà, et c'est un petit déclic.
Alors là où la boucle se boucle, c'est que parallèlement au cabinet, vous heurtez parfois à un mur avec des femmes que vous ne comprenez pas. Vous réussissez pas à poser un diagnostic, vous comprenez pas les symptômes, vous savez pas ce qui se passe.
Oui, il y a beaucoup de patientes avec qui ça se passe mal. Ça se passe mal, et en plus elles génèrent le rejet dans le centre. Il y a des patientes, je comprends pas pourquoi ça part en
quenouille.
C'est très violent. Et des patientes que je suis depuis des années qui reviennent me voir, je comprends pas ce qu'elles ont, mais pourquoi elles reviennent me voir? Ça se passe mal. Et elles reviennent. Et un beau jour, aidé par Emmanuel et d'autres, mais surtout Emmanuel, je vais m'intéresser à leur histoire et je vais leur poser la question magique. Est-ce que vous avez été victime de violences verbales, physiques, sexuelles? Et là, j'ai des réponses. J'ai des réponses, j'ai des révélations. Et ce moment est comment dire, formidable. Formidable d'émotion, mais formidable parce que on va pouvoir, ensemble, avec la patiente, faire le lien entre les symptômes qu'elle présente. Quand on peut pas parler, c'est le corps qui parle, ou la tête. Mais en tous les cas, quand on peut pas parler des violences parce qu'on a honte, parce qu'on se sent responsable, parce qu'il y a le poids de la société qui est derrière, eh ben, on peut pas être accompagné. Et là, on peut, si on peut parler.
Et c'est à partir de là que votre questionnement devient systématique?
Oui, c'est à partir de là que je commence à poser la question de façon systématique devant des tableaux cliniques. Et puis, ça m'énerve que les patientes ne m'en parlent pas. Mmh. Donc, je me dis, on va peut-être faire une autre action.
Ouais.
Et alors, en 2003-2004, on fait des...
Emmanuel Piette, toujours.
Avec Emmanuel Piette et Ernestine René. La question, c'était toutes les campagnes qui s'adressaient aux femmes victimes de violences leur disaient, téléphoner avant qu'il soit trop tard, on voyait un cercueil. En gros, elles étaient coupables d'être avec le mauvais homme, un homme violent, de rester avec lui et de ne pas téléphoner. Donc, triple peine, c'était insupportable. Donc, on fait des affiches en direction des hommes. Un homme sur 10 est violent, 9 sur 10 ne le sont pas, même s'ils tolèrent trop, il faudrait que ça change. Et donc, on va s'adresser aux hommes avec des messages de prévention et on fait des photos d'hommes qui disent « Être un mâle, c'est pas faire mal, tu lui parles pas comme ça, si je la force, c'est un viol. » Et le premier jour de la campagne, je coordonne cette campagne, je mets ces deux affiches dans mon cabinet et des patientes que je suis depuis 15 ans sont en larmes, à 9h en larmes. Et elle me dit « Bah moi aussi, j'ai vécu des violences. » Découverte. Deuxième patiente, 9h15, plein de pathologies, la même chose en larmes. Et je me dis, c'est pas possible. Bon, je pensais avoir fait un progrès. Bon, j'avais un peu progressé, mais pas suffisamment. Donc, c'est comme ça que j'en ai parlé à Emmanuel. On a dit, on va faire des études de repérage. Et j'ai posé des questions à toutes mes patientes et j'ai fait des études. Et là, c'est la découverte. Si on pose pas la question, on n'a pas de réponse. Ouais. On a de réponse qu'aux questions qu'on pose. Et c'est une révélation.
C'est le message à passer et à répéter encore et encore. Osez poser la question à celle qui vous entoure. 2006, Gilles Lazimi, campagne suivante.
C'est pour pas difficile. Comme ça.
Quoi?
Je t'ai touché? Est-ce que je t'ai touché? Non? Alors, qu'est-ce que t'as? Arrête!
Son petit garçon la regarde. On peut imaginer qu'il va l'embrasser. Ce que vous entendez là, c'est le cri qu'elle pousse quand il lui donne un coup de pied.
Un homme qui maltraite sa femme apprend la violence à ses enfants.
Ce que ça raconte, c'est quoi? C'est que la violence, elle se transmet?
Tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'est l'impact de la violence sur l'enfant. Le premier lieu d'apprentissage de la violence, c'est la famille.
Ouais.
Et l'exemplarité, elle joue très clairement. Donc cet enfant qui voit sa mère frappée par son père, certains vont effectivement l'embrasser, mais d'autres vont reproduire et il donne un coup de pied très violemment. Cet impact, il est majeur. Et cette campagne, elle disait très clairement, un mari violent avec sa femme ne peut pas être un bon père. Oh, on est très heureux, elle est reprise aujourd'hui. Mais c'est bien, c'est du chemin, et c'est alors, fondamental.
Les politiques bougent un tout petit peu, la société civile avance. En quoi est-ce que ce travail, alors auprès des malades du sida, auprès des toxicomanes, mais là, plus spécifiquement auprès des femmes victimes de violences, en quoi est-ce que ça vous a transformé?
Alors, ça a transformé mon exercice, ça a rendu facile la relation. Je n'ai plus jamais eu de moments de consultation agressive et violente. Ouais. J'ai compris pourquoi ces patientes étaient en difficulté. J'ai compris pourquoi moi, j'étais en difficulté aussi avec elles. Et puis, ça m'a sensibilisé sur l'impact sur la santé. L'impact, il est colossal. On dit 3,6 milliards pour les femmes victimes de violence, c'est bien plus par an. Et sur les enfants, c'est majeur, et c'est grâce aux femmes victimes de violence, et c'est grâce à elles que j'ai enfin compris quel pouvait être l'impact sur les enfants.
Et comme homme, en quoi ça vous a changé? Vous n'êtes pas le même, j'imagine, que l'homme que vous étiez en 90, au début des années 90, quand ces campagnes commencent, quand vous entrez dans ce combat-là.
Se mettre à la place, comprendre, peut-être que ça m'a aussi fait réfléchir à mon histoire, à mon vécu, à toutes ces familles qui m'ont précédé. Donc, bien évidemment, on est tous dans le même bain sociétal. Donc, on a tous vécu la même chose. Et sur l'enseignement, quand je fais de l'enseignement sur les violences, je commence toujours par la société, le contexte, l'histoire, les stéréotypes. On est en plein dedans. Donc, ça m'a permis, j'aime bien ce mot, même s'il n'a pas forcément été prononcé j'aime bien le mot déconstruire. Si on veut construire, il faut déconstruire. Et on doit déconstruire parce que consciemment ou inconsciemment, même si on est un militant, eh ben, on a encore une hotte derrière qui est très chargée de stéréotypes. Donc, il faut vraiment lutter. Et ça change la vie, ça change la relation. Ça a changé, mais complètement ma relation au patient. Et ça m'a aidé, ce cheminement.
Des femmes aux enfants, il n'y a qu'un pas. Avec Stop aux violences éducatives ordinaires, vous avez réussi à faire changer la loi et à les punir, ces violences, en 2021. À venir, en avril, une nouvelle et très belle campagne. Mais chut, on n'en dit pas plus, on ne peut pas. Gilles Lazimi, en revanche, je peux vous dire qui nous accompagne ce soir à la technique. Jean-Philippe Jeanne à la réalisation, Anaïs Reynard et Lucie Lemarchand. Ophélie Vivier, chargée de programmation. Et ça, c'est Nora Jones, Running. cas aux platines de cette émission. Vous en retrouverez toutes les références sur le site ou l'appli Radio France à la page d'En Marge, exactement à l'endroit où vous pouvez nous podcaster, comme quoi la vie est bien faite parfois.
En Marge. Sur France Inter.
Gilles Lazimi, on est parti du 12 mai 57 à Meknès pour arriver ici aujourd'hui, en Marge. À réentendre ce parcours-là, vous vous dites quoi ?
Ah ben j'ai de la chance, je suis content. Il y a des choses qui bougent, j'y ai un petit peu participé et j'espère que je vais continuer à faire bouger les choses.
Si on regarde devant il y a les enfants, les vôtres, et puis tous les autres, à eux vous voudriez transmettre ceci. Qu'est-ce qu'on entend là ?
Remembering.
Ouais, Avishai Cohen.
Ouais.
Qu'est-ce qu'elle vous dit cette chanson ? Que vous auriez envie peut-être de transmettre ?
C'est l'histoire. L'histoire a continué. J'aime bien ce fil de génération qui augmente avec la connaissance, avec les changements, avec le sens de l'histoire.
Remembering, voilà. C'est important de se souvenir.
Ah, toujours. Si je veux avancer, il faut que je me souvienne. Ouais. C'est important et c'est grâce à ce souvenir que je vais faire les choses différemment, que je vais avancer, que je vais améliorer les choses. C'est le sort de nos sociétés. Hein, donc,
quand on oublie que c'est dangereux, quand on oublie le passé.
Ah, c'est très dangereux. Ben, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Là. Je pense que je suis très inquiet des élections à venir et du monde à venir. Donc on va se battre.
L'importance du souvenir, c'est pour ça que nous avons emmené cet objet qui ne vous quitte pas.
Alors, l'objet qui ne me quitte pas est d'une banalité sans nom. Hein.
Montrez-moi, dites-moi, c'est quoi ?
Vous allez être très déçus. Hein.
Jamais déçu. De vous, jamais de déception, Gilles, jamais.
Non, mais c'est vraiment d'une banalité, mais c'est pourtant la chose la plus importante pour moi, c'est ma famille. Ouais. Donc, c'est la famille, un soir...
Alors, vous n'avez pas emmené votre famille, mais par contre, vous avez emmené votre téléphone, qui est plein de photos de famille.
Ah ben, il y a plus de 70 000 photos.
C'est vrai ?
Oui. Voilà, c'est
ah
la
oui,
famille.
Ah oui, ils sont tous là.
Voilà, ils sont tous là et c'est majeur. Alors, il pourrait y avoir cette photo et puis il pourrait y avoir la photo...
Les jumelles, Sacha,
petits,
vos petits-enfants.
Voilà,
ouais.
Tout à fait. Et puis, la deuxième photo qu'il pourrait y avoir, c'est la photo des amis. Voilà,
ouais.
C'est fondamental. C'est ce qui permet de nous construire et puis de nous aider à cheminer et à lutter et à résister.
Voilà ce que vous voudriez leur dire, ce que vous nous avez dit en vrac, hein, en préparant cette émission. Résister, déconstruire pour construire à l'endroit. On peut toujours accompagner, aider une personne. Quand on est victime, on peut s'en sortir. On n'est pas victime à vie si on est bien accompagné, respecté et valorisé. Lutter sans cesse pour abolir toutes les violences envers les personnes et envers les enfants. On a tous un rôle à jouer. Voilà, vertèbre après vertèbre, votre colonne Gilles Lazimi, ces mots qui vous tiennent tout droit et nous accompagneront longtemps, je crois. En Marge, c'est terminé pour ce soir. Merci infiniment Gilles Lazimi.
Merci.
Merci à toutes, à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir.